Oui, bonjour. Je viens d'écouter votre dernière émission là sur sur cette espèce d'esclavage des petits enfants noirs qui veulent faire du foot et que je trouve pleine de compassion et d'humanité pour cette pour tous ces gens qui souffrent et qui subissent l'injustice. Voilà.
Bonjour monsieur, j'ai écouté avec passion votre émission sur Business Foot. Ce reportage me touche beaucoup car j'ai de la famille au Cameroun et j'ai beau leur expliquer le système, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent rien entendre. Ils sont absolument fascinés pour venir en Europe.
Bonjour, c'est à propos d'un petit garçon qui avait à l'époque 7 ans, qui s'appelle Claude Larget. Il était en vacances ces jours-là, quelque part aux confins de la Dordogne et de la Haute-Vienne, lorsque les Allemands sont arrivés. Et le boulanger, chez qui il était hébergé, avec sa grand-mère, sa sœur, sa tante, lui dit « Écoute Claude, il faut vite que tu prennes ton petit vélo et que tu ailles vite prévenir, tu sais, le meunier là-bas. Lui dire de surtout ne rien faire, surtout ne rien faire. Parce que cela, ça a l'air d'être des méchants. » Alors le petit Claude a pris son petit vélo et il s'est présenté au bout du village où il y avait un barrage d'Allemands qui étaient là. Et ils lui ont donné du chocolat. « Où vas-tu, petit ?»« Oh, ben, je vais dormir chez le meunier parce qu'on a beaucoup trop peur. » Il est allé prévenir. Et ce jour-là, la résistance n'a rien fait contre cette division allemande qui remontait. Et puis le petit Claude, complètement terrorisé parce qu'il pensait vraiment que quelque chose de grave pouvait se produire, est allé dormir chez le meunier. En fait, le meunier, c'était le correspondant d'un parti de FTP local. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Claude avait 7 ans. Le lendemain, c'était le massacre d'Oradour. Voilà. Salut Claude, si tu m'écoutes. Salut Claude.
Des messages sur le répondeur de la base, j'y suis. Aujourd'hui, vendredi, on va se faire une petite balade à Addis Abeba. Addis Abeba, une petite heure en musique avec la musique qu'on joue la nuit et qu'on entend la nuit, parce que la nuit d'ailleurs, à Addis Abeba. Ça nous changera de l'endroit où je me trouve. C'est l'endroit sans doute le plus sinistre et le plus triste et le plus lugubre, je manque d'adjectifs, du monde. C'est un bunker où je me trouve. C'est à la sortie de Mestre, une ville du nord-est de l'Italie. En face, c'est Venise, mais ça ressemble pas du tout à Venise. C'est une ville industrielle, assez fumeuse, assez triste. Et ce bunker a été construit au début des années 80, quand on a jugé les terroristes rouges de la période des brigades rouges. Alors c'est des salles d'audience, tribunal, là je vois l'allégué Egual Pertuti, et des cages sont sur ma gauche, c'est là qu'on tenait attachés les assassins présumés de cette époque. On a jugé ici des gens des brigades rouges, on a jugé ici des gens aussi du terrorisme noir. Faut jamais oublier qu'il y a eu, et c'est ça sans doute le plus important, beaucoup d'attentats imputables à l'extrême droite, au mouvement fasciste. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, pour rencontrer un juge qui a révélé le réseau Gladio, ce fameux réseau Gladio qui sévissait en Italie depuis les lendemains de la guerre, avec des financements de la CIA, et qui avait au départ pour but de présenter une défense face à une problématique, une possible invasion soviétique, mais qui peu à peu a dérivé en soutien à des actions d'extrême droite avec la connivence d'une partie des services secrets italiens. Voilà ce que ce juge vient de nous raconter avec toute la précision d'un juge, d'un magistrat nécessaire. Voilà, on va rentrer sur Bologne ce soir, et vous, ben voilà, vous allez vous balader avec nous d'ailleurs à Addis Abeba. D'autres messages, d'ici là, je rappelle encore une fois le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
ST Micro Électronique. C'est un très joli nom. Le T, c'est pour Thomson. C'est une multinationale qui a racheté une filiale de Thomson, comme le nom l'indique. Elle appartient à un Italien. Le PDG est un Italien, donc en Européen. Malgré tout, la multinationale qui gagne énormément d'argent, qui fabrique des produits de pointe pour la microélectronique, pour le satellite et pour le téléphone cellulaire, etc., etc., est en train de délocaliser le site de Rennes pour aller travailler, faire produire ses puces électroniques en Chine. Cela fait un an que les ouvriers de ST Microélectronique à Rennes se bagarrent pour empêcher cette délocalisation. Ils ont fait appel à l'État qui détient 17% du capital de ST Microélectronique et l'État a simplement dit que le plan social qui accompagnerait cette délocalisation serait exemplaire. Exemplaire, il l'a été puisque grâce à quelques maladresses de la justice française, la société a réussi à prendre tout le matériel qui se trouvait, enfin tous les produits qui se trouvaient à l'intérieur de l'usine. Et exemplaire il est toujours, puisque la police est à la sortie de l'usine pour permettre l'enlèvement des machines, le déplacement des machines et leur expédition en Chine. Alors si vous habitez à Rennes, il n'est pas trop tard, à 6 heures, il n'est pas trop tard pour rejoindre les entrées de ST Microélectronique dans le Glône, à Rennes, pour soutenir les ouvriers, les salariés et empêcher le déplacement de ces machines.
Voilà, on est le 10 juin, il se passe vraiment quelque chose à Rennes. Une usine vient d'être démantelée avec le secours des forces de l'ordre.
Je vous invite tous, si vous êtes intéressés sur le sujet de l'Afrique, à consulter le site www.continentpremier.info. Qui traite tous les sujets en rapport avec l'Afrique. Par exemple, la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud pour être en lien avec le sujet du jour, mais aussi des sujets sur les crises, le désarmement et notamment une interview de Anne-Cécile Robert, la journaliste du Monde Diplomatique, auteur de l'Afrique au secours de l'Occident.
Bonjour, je suis Michel. Je soutiens tous les services de la fonction publique. Ces services nous appartiennent. Aucune privatisation ne devrait être possible. N'achetez pas d'actions de ces sociétés, vous contribuez au chômage. Regardez France Télécom qui pendant des mois gonflait le CAC 40 et qui dorénavant ne vaut plus rien. Sauf pour l'écran bien évidemment, qui savait ce qui se passait et qui quittait les bateaux avant qu'ils ne coulent. Ne jouez pas le jeu des politiques qui vous bafouent depuis trop d'années. Et réagissez. Pourquoi nous parlons d'élections européennes? Ils s'intéressent à nous qu'à ce moment, mais la France d'avoir existe tous les jours. Elle souffre. Elle dégénère. Que de misère. J'ai en moi une colère. Réagissez à la télé-réalité qui n'est qu'un somnifère pour cacher la vérité et mieux vous manipuler. Bravo Daniel et merci à Jean-Luc Hesse pour la cyberliberté et qu'il a donnée à France Inter. Merci beaucoup et bon courage à vous.
Oui, Pascal Ducrot, je tiens à remercier particulièrement Thierry Sharp et Daniel Mermet sur l'émission, car il nous a fait l'honneur de venir jusqu'à Haubourdin. Suite à l'émission, le soir même, j'ai eu la personne, Monsieur Huret en l'occurrence, qui m'a donné donc un rendez-vous téléphonique que j'ai pu m'entretenir avec lui le mardi d'après. Le problème c'est qu'il peut rien faire quoi. Mais je tiens à remercier encore France Inter. Merci.
Bonjour, là-bas c'est j'y suis. Je suis une vieille dame de 82 ans. Et je vais vous dire les personnes pour qui j'ai le plus d'estime et de respect. Jean Jaurès, Louise Michel, Monsieur Badinter, Monsieur Mendès France, Anatole France, et vous comprendrez pourquoi je suis fidèle à vos émissions. Salut à tous les auditeurs. Denise, 82 ans, La Butte aux Cailles à Paris.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil en Éthiopie, quelque part. Express number 2, arriving from New York.
Ethiopia! Ethiopia, grazie.
Éthiopia, Éthiopie, Éthiopie et famélique, c'est le même mot. Éthiopie égale famine, égale maladie, égale peste et choléra, sécheresse et sida, symbole de ces pauvres pays en souffrance, la partie pourrie de la planète, un genre d'untermensch, une sous-humanité, vit là, survit là, dont on parle bien peu, qui intéresse bien peu, qui remue une mauvaise conscience, une impuissance, une indifférence. En tout cas, côté média, c'est un sujet pas vendeur du tout, qui fait pas d'audimat du tout, c'est pas people, c'est pas sexy. Alors on reparlera de ça, des politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international plus tard. Pour l'instant, on est à Addis Abeba et on a parlé de ressources, et il faut bien sûr évoquer les ressources naturelles, les ressources humaines, mais il y a aussi les ressources spirituelles et culturelles. Je rapproche les deux mots, spirituel et culturel, parce que c'est des notions qui sont différentes dans ces pays-là, dans ce pays-là en particulier. La culture n'est pas un loisir, un moyen de distinction ou d'affirmer son standing, mais c'est une ressource fondamentale. Et voilà pourquoi, jusqu'à 18h, on va passer un moment avec des musiciens à Addis Abeba, et on va commencer par aller dans une quincaillerie, tout simplement, où nous attend un musicien, très très grand musicien éthiopien, qui s'appelle Alemu Aga, qui est un grand virtuose du bagana, c'est-à-dire la lyre à 10 cordes. Bonjour. Ah oui, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Magnifique cette harpe. Déjà, c'est un peu surprenant de voir un musicien comme ça dans une arrière-boutique. C'est plein de cartons partout qui viennent de tous les pays du monde. Ça vient de Chine, ça vient de partout. Et ça contient quoi? Des cuvettes, des casseroles, tout un tas de produits? Parce que vous êtes marchand de couleurs, en somme.
Oui, c'est mon travail.
C'est votre commerce?
Oui. Il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de France.
Qui viennent de France?
Oui.
Par exemple quoi?
Moulinex. Toutes les choses de Moulinex, comme ça, il y a beaucoup.
Beaucoup de produits français que vous vendez ici dans votre magasin. Bon, oui. Mais c'est pas votre seule activité, vous êtes musicien aussi?
Oui. Après mon travail, je joue le bagana.
Le bagana. Et voilà la harpe. Alors, comment décrire ça? C'est comme une lyre, hein, c'est comme une grande lyre avec un cadre de bois dans la partie supérieure, et il y a un certain nombre de cordes, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 cordes, oui, qui sont tendues sur... Il y a une caisse de résonance.
Les cordes sont faites à partir de boyaux.
De boyaux de quel animal?
Mouton.
C'est fait avec des boyaux de mouton, donc les cordes. Et puis là, il y a une caisse de résonance en peau. D'où vient l'instrument? Vous connaissez l'histoire de l'instrument?
Oui, les Éthiopiens croient que cet instrument est venu en Éthiopie, d'Israël. La première personne qui a joué cet instrument était le roi David d'Israël. Cet instrument, il a l'histoire de 3000.
3000 ans. C'est un instrument qui date de 3000 ans.
Oui.
Ah, c'est possible. Vous y croyez? Vous croyez ça?
Oui, pourquoi pas.
C'est un instrument qui est réservé à la musique sacrée, le bagana.
Religieuse d'Éthiopie, l'orthodoxe. C'est un instrument utilisé pour prier et pour faire des méditations aussi, seulement pour ça. Pas avec les êtres instruments modernes ou avec les autres instruments religieux. C'est jouer seul.
Donc c'est un instrument qui est lié à l'histoire du christianisme en Éthiopie.
Oui.
Et vous en jouez dans quelle occasion, vous? Parce que là, c'est dans votre quincaillerie, vous ne devez pas avoir souvent l'occasion de jouer du bagana.
Bagana, nous jouons beaucoup de fois au temple de Carême.
Pendant le Carême?
Oui, mais les autres fois, c'est un instrument de prière. Quand je fais une prière, je joue ça pour moi-même.
Mais il y a d'autres moments de l'année où l'instrument est utilisé?
Oui, quand il y a des fêtes religieuses, l'épiphanie comme ça, pendant le temps de Noël, nous jouons ça.
Dans quelle langue vous chantez?
Beaucoup de fois en Amérique, la langue populaire, quelquefois aussi en gez.
Le gez?
Oui, c'est la langue de l'église. Dans l'église, tout parle gez.
Ah, c'est comme pour nous le latin?
Oui, comme ça.
C'est la vieille langue?
Oui.
ዳል ታምሮን ያነባል ስንል እንኳን ሊያነብና እንኳን ሊያነብናን ገና ያግዛል ከቶ አይቀርም ወቱ እህል ታሟላሉን በእግሬ ልገስግስ እሞት የለሁም ወይ እሞት የለሁም ወይ በቅሎም አስኪደርስ ከቶ አይቀርም ወቱ ያጅ ተሳፋሪን ሰዎች ከሆናችሁ ከቶ አይቀርም ሞቱ ያጅ ተሳፋሪን ሰዎች ከሆናችሁ አረ ለመቼው ቀን አረ ለመቼው ቀን ቤት ትሰራላችሁ ከቶ አይቀርም ሞቱ ከቶ አይቀርም ሞቱ
በሚጸልዩበት ጊዜ መፈሳቸውን ወደ እግዚአብሔር እንዲያደርጉ ጸጥ ብለው እንዲጸልዩ ያረጋቸዋል
ça aide à instaurer un certain calme ça aide l'esprit des croyants à aller vers la prière à aller vers Dieu le son de cet instrument là
c'est étonnant parce que c'est dans tout ce décor de carton il y a des cartons partout qui contiennent des casseroles des machins en plastique des marmites des passoires des petits jouets en plastique et puis parfois quelques articles Moulinex venant de France, hein?
La Moulinex est là.
Le Moulinex est là. Oui, ça c'est Moulinex. Et puis à côté, hein?
La Moulinex est populaire.
Ah bon?
Oui.
Et pourquoi non?
Parce que c'est une bonne...
Bonne qualité. Qu'est-ce que vous allez jouer?
La prière de notre Père.
Notre Père.
C'est la prière que les orthodoxes éthiopiens priaient beaucoup de fois dans la journée. C'est un prier très important. ቤቱን ፈቃድህን ይህ እንዲደረግ ይሁን በሰማይም ተንተነስተን ከደይን እንድንኖር ምስጋና ምግብ ሆኖን ዛሬም በምድር በስጋ ሕይወት ሳለን ምግባችንን በየዕለቱ አውቀስጠን ይቅር በለን የበደልንህም ቢኖር ወንድማችን የበደለንን ነገር እንዳቅማችን እኛም እንድንል ይቅር በገሃነም በክፉ ሁሉ ማት አትጣለን ያንተ ገንዘቦች ሁሉም ለዓለም
والعدم عدم عمنا يتلاكو قدس غابريل كجيتا سلام لك يا نفس اسكامر قم بروكناو يا ماهزانش فريم عندك ادمو عندنا بنان داسا كنفسش نفس ساعت سلاتش طعت ماتا ودلجيش اللي عدار قلني كرتا يقربلو حتى تحجن هلونا اندي عدنا عنشي تماسنا نعلن
Simple et serein, c'est vrai que ces deux adjectifs correspondent tout à fait à l'art d'Alemu Aga, ce musicien très très célèbre en Éthiopie, notamment à Addis Abeba, dans l'arrière-boutique de sa quincaillerie entre Moulinex et Bagana, du profane au sacré. On va passer au profane après, dans quelques instants, dans les nuits d'Addis Abeba, avec les Asmari, qui sont, vous allez voir, des ménestrels, une sorte de ménestrels, on va dire comme ça, très joyeux, très vivants, très rigolos, très ambigus, qui jouent tout un rôle très important dans la société, dans toute la société éthiopienne, et notamment à Addis. Mais pour l'instant, on est avec Alemu Aga, avec cette lyre, quand même, qui est impressionnante, très grande lyre, dont le roi David, le vainqueur de Goliath, hein, le vrai David, aurait joué il y a 3000 ans pour apaiser les insomnies de son beau-père Saül, qui était le premier roi des Hébreux, et ce serait son petit-fils, qui était le petit-fils, et ben oui, c'était Ménélique premier, c'est-à-dire le fondateur des Salomonides, c'est-à-dire la dynastie des rois et des empereurs d'Éthiopie, jusqu'à tout récemment, jusqu'en 1974, jusqu'au Négus. Eh bien, le roi David, donc, aurait vu cette lyre introduite en Éthiopie par Ménélique premier, qui est, vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est très grave, qui est le fils du grand roi Salomon et de la reine de Saba, la figure fondatrice de l'Éthiopie, qui s'en était allée là-bas chez les Hébreux voir qui était le sage Salomon. Et Salomon ne fut pas aussi sage qu'on le prétendait, puisqu'il a craqué devant les charmes de la reine de Saba, et après son retour, 9 mois et quelques jours après son retour, elle enfantait du roi des rois, le bon Ménélique, fondateur donc de cette dynastie. Et cet instrument qui est là sur les genoux de cet homme, dans l'arrière-boutique de cette quincaillerie, raconte tout ça.
Notre chanson qui s'appelle Alayen Balou, nous n'avons pas vu. C'est au sujet de la mort. La mastaos mot ndalena, bemdr laivalen betkizet, rotro nagarn den saram yastaos non.
C'est pour continuellement rappeler aux gens que la mort est là. Donc, rappeler à chaque personne que, en attendant, il faut faire des bonnes choses pendant qu'on est sur Terre.
Comment on apprend? Est-ce que ça se transmet de père en fils? Vous êtes une famille de musiciens ou vous avez appris comme ça tout seul parce que ça...
Quand j'étais un petit garçon dans l'école élémentaire, il était une personne qui enseignait cette musique.
Qui vous a appris ça quand vous étiez enfant? Toi, tu connais ça depuis que t'es gosse?
Non, parce qu'en fait, c'était un instrument qui, pendant la période du Derg, était interdit.
C'est-à-dire le temps des communistes, le temps de Mengistu.
Voilà, c'est comme si c'était un instrument qui est lié à la monarchie, à l'église. C'était interdit et on ne l'entendait plus.
Dans le temps du communisme, il était interdit. C'est pas seulement pour cet instrument, mais pour toutes les choses de religion, il était interdit.
C'était... Alors comment vous faisiez pour jouer au temps du Derg, au temps des communistes?
Alors, je joue dans la maison.
Clandestin. Oui. La harpe clandestine.
Oui.
Mais c'est très intime, hein. On en joue de façon très intime. Vous avez toute la voix est très proche, comme ça. Ça n'est pas un chant qui va loin, qui se porte. Comme ça, c'est pas un chant de pouvoir. C'est un chant de l'intimité, de la méditation, de la réflexion. On s'approche autour de vous pour réfléchir.
tranquille, mélancolie. Balu, ya mot si falkan si shanu lalalu asti alayen balu, alayen balu eral saman balu, ya mot si falkan si shanu lalalu asti alayen balu, alayen balu. Eran samana balu ya mot si falkan si shanu lalalu asti alayen balu endet evana alla farandet evana alla ahun kaftoñal alam motallo asti alayen balu alayen balu Eran samana balu ya mot si falkan si shanu lalalu asti alayen balu. C'était l'instrument de la famille royale. Quand ils viennent ici, les familles royales, ils jouent cet instrument.
Vous auriez voulu jouer, vous, à la cour de l'empereur? Ça vous aurait plu de jouer pour le négus?
Mais j'ai joué un fois ou deux fois quand j'étais un petit garçon. Sa Majesté l'empereur Haïle Selassie, quand il est venu dans mon école pour faire une visite, j'ai joué devant lui quand j'étais un petit garçon. Pour moi, c'est un grand honneur, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Oui. Salam laki, Maryam dingel nesukte. Salam laki, Maryam dingel nesukte. Salam laki, Maryam dingel nesukte. Yachin ergibe, yachin walala fitrate. Besalamta, eskin noz zatikite. ያምላክናት የሰማይ የምድር ፈጣሪ የእርሷ አዝማሪ እዝራና ዳዊት በባህ ቃል ኪዳኗ ማይፈርስባት ነዋሪ እልፍ አእላፍ መላእክት አሏት ነባሪ ያገልግሉሽ ብለው የሰጣት ፈጣሪ እኛን ይዛ ፍጥረት ዓለም መካሪ ወላላዊ ቢዛዊት ዓለም ብጽዕት ከወተት ውዳሴ ስቶን በእውነት ከለላ ታምርሽ ክሩብ ሲበላ የብርሃን ዘውድ የብርሃን አክሊል ደፍተሽ ድረሽልን በሰረገላ ሆነሽ ይሸሻሉ አጋንንታንች ሲያውሽ የባብ ያለ ግሩም የሆነ ዳመና ላመናት ሰው የምትደርስለት ተጭና
It's been 2 years of on-again, off-again war and a few weeks of ferocious battle. The opening of peace talks between Ethiopia and Eritrea was overshadowed by attacks at an Eritrean airport yesterday. Ethiopian jets bombed the military airstrip near the Eritrean capital of Asmara. Ambulance raced to the scene of the daylight attack. First on the capital, the conflict began. The talks that opened today in Algeria.
En Éthiopie, quelques pas sur fond de guerre. Bien que, encore une fois, à Addis Abeba, tout se passe comme si il ne se passait rien. tout à fait une ville de l'arrière, mais on ne sait pas avec quoi comparer, à quoi ressemble la ville d'ordinaire, puisque c'est la première fois que nous arrivons en Éthiopie, et dans cette ville, et dans la nuit de cette ville, on nous entraîne, nos amis Ambaye, Weldé, nous emmènent dans les Asmaribet. C'est quoi les Asmaribet? Eh ben, c'est des petits, tout petits, bah, vraiment parfois, tout petits cabarets, on va dire, où on fait une musique très particulière, très gaie, très vivante, que vous entendez là, et donc des tout petits endroits où on retrouve au sol cette paille, ces herbes qui parfument, et là tous les soirs que Dieu fait, toutes les nuits que Dieu fait, se produisent les asmaris, ces drôles de troubadours qui relèvent de tout sauf de ce qu'on pourrait appeler la culture, du moins telle qu'on l'appelle chez nous. Pour nous maintenant, la culture, c'est un supplément, c'est de la consommation, c'est du loisir, c'est l'affirmation d'un standing social, etc. Tandis que là, c'est vraiment la vie. On va passer un moment avec eux et vous allez voir que leur musique, leur art, leur improvisation qui se basait sur des traditions qui sont en invention permanente relève vraiment beaucoup plus de la vie que de la culture. C'est en tous les cas une des expressions les plus fortes, les plus vivantes aujourd'hui dans cette ville et plus généralement dans ce pays. Et c'est une façon de rencontrer, de connaître, d'approcher tant ces ménestrels. C'est comparable, on peut les comparer à des ménestrels, sont après tout eux aussi des révélateurs de cette société. Ils la racontent, d'une manière parfois ambiguë, ils sont manipulés par cette société, ils manipulent les spectateurs, ce qui leur prête l'oreille. Et vous allez voir, pas seulement l'oreille, parfois on se lève, on danse avec ses épaules. C'est une drôle de danse très 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 sensuelle, en buvant des verres de bière dans ces tout petits endroits où il fait très chaud. Alors là, je l'ai dit, on est avec le camarade Guy, évidemment, et puis avec Ambaye, et puis avec Weldé, et avec Anne Bollet, qui est une chercheuse qui travaille exclusivement sur les Asmaris. Alors on va dire chercheuse, universitaire, oh là là, comme tout ça doit être morne et ennuyeux. C'est vrai que c'est souvent le cas, mais là, il se trouve qu'elle est compétente, joyeuse, et qu'elle-même joue de l'instrument que vous entendez, ce violon à une seule corde qui s'appelle le masingo et qui est l'instrument même des Asmaris.
أنا عطني دلنا يتزامن على البيت، أنا عطني دلنا.
Oui, elle s'appelle vraiment Mimi, cette chanteuse Asmari. C'est une femme très jolie, assez petite comme ça. Et vous entendez autour d'elle donc d'autres chanteuses, Asmari. Là, il se trouve dans ce tout petit endroit qu'il n'y a que des femmes. Et il y a derrière le kébéro, c'est un tambour qui bat la mesure. Alors, on c'est très gai, hein, c'est heureux, c'est gentil, ça. On se sent tout de suite bien en arrivant dans cet endroit. On s'assoit sur des tabourets microscopiques, on vous sert une bière. Il y a une étagère avec des restes de guirlandes de Noël, avec des bouteilles de whisky qu'on espère vous vendre, mais ça ne va pas être tous les jours que les clients ont les moyens. Parce que c'est quand même beaucoup des jandadis qui viennent là. Il y a quelques rares expatriés qui s'aventurent, mais sans doute pas dans ce genre d'endroit. Ça se passe comme ça toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit, tant qu'on en demande. C'est leur métier, c'est leur vie aussi, et c'est leur art. Voilà comment Anne Bollet donc présente les Asmari. Alors, d'abord, explique-moi le lieu là, ici. C'est un tout petit, comment on appelle ça, un cabaret, un boui-boui.
Ici, à Addis Abeba, on appelle ça un Asmari Bet, une maison d'Asmari. En fait, j'aurais dû commencer par l'endroit où on est à 10. On est à Kazanchis. C'est un quartier assez populaire d'Addis Abeba, où il y a une concentration assez importante d'Asmari qui joue le soir.
Donc, alors les Asmari, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme traduction? Troubadour?
Ce sont des troubadours dans le sens où, quand ils vivent à la campagne, ils se déplacent de village en village, de marché en marché, pour jouer dans les bars et gagner leur vie comme ça. Après, troubadour, non, pas non plus, parce que ils ne chantent pas que sur l'amour, ils peuvent improviser sur les gens qui sont autour.
En tous les cas, c'est un art musical qui vient de la nuit des temps.
Oui, c'est très ancien. Quand on demande aux Asmari d'où vient le Massinko, d'où viennent les Asmari, ils répondent assez facilement que à la mort de Marie, la mère du Christ, de l'un de ses côtés, il y avait une Bugna et un joueur de Bugna, Dawit, le roi Dawit, et de l'autre côté, il y avait Isra, donc un personnage biblique, avec un Massinko.
C'est ce qu'on entend là, c'est cet instrument.
On pourrait dire une viole monocorde, une seule corde faite en crin de cheval, avec une caisse de résonance en bois, une peau tendue dessus, et un archet.
Donc ils viennent tous de la même région.
Oui, c'est une spécialité musicale du pays Amhara, donc des hauts plateaux d'Éthiopie. On les trouve qu'ici, dans le pays Amhara, dans le pays Tigrinya, en Érythrée aussi.
Ce qui est extraordinaire, c'est que on a l'impression que tu parles comme quand on parle des musiques du monde, des musiques un peu mortes, des musiques un peu musées. Bah pas du tout. C'est vachement vivant. On entre ici, c'est un petit boui-boui tout à fait sympa, très modeste.
avec... C'est quoi l'herbe par terre? Il y a de l'herbe par terre.
On met toujours de l'herbe, par exemple, le midi, l'après-midi, quand on fait le café. Voilà, il y a toujours un peu d'herbe.
Il y a des décorations au plafond, genre décorations de Noël, quelques bouteilles de whisky.
Ça, c'est les restes de Pâques.
Ah, les restes de Pâques, bon, j'étais pas très loin. On boit de la bière, quelques pubs, des lumières vaguement tamisées, une petite décoration, une lampe qui fait décoration. Alors, les musiciens, c'est une famille
Disons qu'à l'origine, c'était une caste de musiciens. Enfin, et encore à l'heure actuelle, c'est des gens qui se marient surtout entre eux. On est musicien de père en fils, on est danseuse et chanteuse de mère en fille. Et un Azmari aura plutôt tendance à se marier avec une fille d'Azmari qu'avec quelqu'un d'autre, quoi.
Qui vient là ce soir, c'est nous. Bon, on est entre copains. Mais en règle générale,
c'est une musique populaire d'Addis Abeba. Enfin, là, dans l'endroit où on se trouve, c'est quand même assez urbain. Dans le sens où c'est des gens qui jouent tous les soirs ensemble et qui se retrouvent dans le même endroit ensemble, dans un bar, pour jouer. Ils ont plus ce côté itinérant qu'on peut retrouver à la campagne. Ils sont établis ici, ils jouent tous les soirs ici. Mais viennent ici ben, les gens qui ont quelque chose à fêter, les amis qui veulent s'amuser ensemble. C'est des endroits assez populaires.
Et gay, c'est vachement gay. C'est très très gay.
Et c'est fait pour danser aussi. C'est fait pour s'amuser, danser, rigoler, parce que les musiciens sont surtout et avant tout des bons parleurs. Ils arrivent à la fois à manier la moquerie et puis les compliments.
Marie, c'est Mimi, elle est absolument prodigieuse. Alors on n'ose pas faire ce qu'on fait quand c'est des hommes qui chantent, c'est-à-dire sortir un billet et le coller sur le front, sur la sueur du chanteur. Là, on sait, voilà, on est un peu plus respectueux. Alors on va glisser le billet dans l'échancrure du corsage de la chanteuse. On sera gratifié d'un sourire ou d'une moquerie. Pas d'une moquerie quand on donne de l'argent, c'est plutôt quand on n'en donne pas. Et donc c'est tout un jeu malicieux, compliqué, de sous-entendus. Et on voit bien la fonction de ces Azmaris dans une société, encore une fois, qui est quand même une société très très écrasée, très dominée par ces années, aussi bien d'empire quel qu'ait pu être sa splendeur, qui n'était rien d'autre que féodal, et ces 17 années de Derg, c'est-à-dire de marxisme léniniste stalinien et très oppressant. C'est la guerre, au loin, mais elle est vraiment loin, et cette nuit-là, on est
au cabaret.
Là-bas,
si,
là-bas, si.
Là, ça raconte quand même une culture populaire, riche.
Ah oui, c'est
assez inventif, c'est pas...
C'est pas quelque chose de figé, c'est toujours quelque chose qui évolue. Étant donné que c'est basé beaucoup sur l'improvisation, même si ça réutilise des poèmes anciens, ça les remet au goût du jour, c'est toujours en mouvement.
Et l'ingrédient de ce mouvement, c'est quand même le visiteur, c'est l'autre, c'est celui qui vient susciter et en même temps se faire un peu moquer par le chanteur.
Oui, au sein de la société, les Azmari, ils ont une position un petit peu ambiguë. Ils sont à la fois des gens qui vivent la nuit, qu'on traite d'ivrognes assez facilement parce que ils jouent dans les bars, mais aussi c'est des gens aimés parce qu'ils font rire. Et puis ils se moquent de notre voisin, ensuite de nous-mêmes, mais c'est une autodérision, une dérision qui est appréciée ici.
Alors, en ce moment c'est la guerre quand même, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'il leur arrive d'en parler, d'évoquer d'une façon ou d'une autre ?
Ils l'évoquent pas spontanément, je crois. Peut-être il peut leur arriver de lancer quelques réflexions qui seront, je pense, dans ces cas-là, plutôt patriotiques qu'autre chose.
Ouais, ils sont prudents, quoi. La famine, par exemple, en 84-85, la grande famine, est-ce que c'est des thèmes qu'ils ont abordés, des thèmes dramatiques comme ça ? Est-ce que ça peut leur arriver ou...
Ça leur arrive, mais dans les endroits, en fait, qui sont touchés par la famine. Enfin, maintenant c'est quelque chose de passé, et comme me répondait un vieil Azmari auquel je lui demandais chante-moi des vieux poèmes, des poèmes de l'ancien temps, ce que ton père chantait, ce que ton grand-père chantait. Il m'a répondu, on laboure pas avec des vieux bœufs. Ah ouais, on fait pas d'argent avec des vieilles choses.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pas une tradition en même temps. C'est pas une tradition au sens de quelque chose de figé, d'arrêté, de musée, etc. C'est à la fois une tradition et quelque chose de vivant, d'inventif, de créatif, de moderne.
C'est une tradition dans le sens où il y a longtemps, longtemps, on utilise ce genre d'artifice pour faire rire les gens ou pour les faire réfléchir. Mais c'est toujours nouveau, toujours basé sur des choses nouvelles et puis... Et il faut qu'ils gagnent leur vie, c'est des musiciens professionnels, ils n'ont que ça pour gagner leur vie. Ils n'ont pas de terre, souvent ils ne sont pas paysans. Ici c'est quand même 95% de la population qui vit de la terre. Il faut bien qu'ils gagnent leur pain. Et le pain, il ne se gagne pas avec les choses anciennes, il se gagne avec les nouvelles choses qu'on invente continuellement, jour après jour. Client après client, personne après personne.
Alors là on les trouve ici à Addis Abeba, dans ce petit bar... Mais ils chantent dans les campagnes, ils chantent dans les villages en ce moment ?
Ah oui, on les trouve partout sur les hauts plateaux. Absolument partout. Le meilleur jour pour trouver les Azmari, c'est les jours de marché. Parce que beaucoup de gens viennent vendre, acheter leurs produits. Et vont toujours, après leur transaction, boire quelque chose au café du coin. Bon, ici, c'est de l'hydromel, une bière locale. Et toujours dans ces endroits-là, il y a... un Massinko, un Azmari qui chante. Et voilà, c'est une bonne manière de finir le marché.
Give me balloon, ask your lachego.
Vous devez tous prononcer le nom de Give. Si on n'entend qu'un seul nom, ça doit être le nom de Give.
Tadman, ተደመም ተደመም ዳንኤል ወደደው ዳንኤል ወደደው ላፈቀረው ሰው ማር ነው ወለላ ነው ሰፈፈም የለው
ወለላ ነው ዳንኤል aime quelqu'un la personne que Daniel aime bah il sera comme du miel pour cette personne. Le sabre ne le rechigne pas à le couper. Mon frère à moi, viens Walde, je t'aime comme ce plat-là.
Tadmam, 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 tadmam. Daniel n'a t'en coûte, arfo y kamat, buzo so y fajan si galababat.
Surtout pas à Daniel, il risque de faire du mal en se retournant dans tous les sens.
C'était les Azmaribet, un reportage de Guy Vanctil et Daniel Mermet sur l'Éthiopie. Merci à Anne Bollet et Francis Falsetto, un passionné des musiques de là-bas, qui publie les fameuses compilations éthiopiques. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. À la technique, Patrick Henry et Benjamin Delagatinet. Réalisation Koy Nguyen, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com.